Bienvenue à tous à l'émission Connaissez-vous. Je vous demande cette semaine, connaissez-vous Alexandre Bellemare? Rebienvenue à l'émission, comme mentionné avant l'introduction, mon invité est Alexandre Bellemare. Et je pense ne pas me tromper beaucoup en disant que dans le milieu des non-voyants, Alexandre, c'est quand même un très grand passionné de technologie. Il va d'ailleurs nous en parler aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour Alexandre.
Bonjour Martin.
Je me trompe pas, hein? Je pense que toi, la technologie, tu as connu ça quand même assez jeune.
Effectivement, j'ai commencé à travailler avec les aides technologiques à partir de l'âge de 6 ans. Donc, j'ai eu premier ordinateur, premier afficheur braille, quand je suis rentré en première année au primaire. Donc, j'ai été initié très, très tôt, effectivement, à la technologie.
Et toi, tu ne vois pas depuis la naissance, hein, je crois.
Exactement.
OK. Est-ce que tu as des souvenirs un peu de ton enfance, dans le sens où... à quel moment tu t'es aperçu que tu n'avais pas le sens de la vue?
Ben, pour moi, c'est sûr que vu que je suis né ayant absolument aucune vision, donc ça n'a pas été une perte, par exemple, à l'âge de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, ça a vraiment été de naissance. Ça a toujours été un blackout, aucune perception lumineuse, donc même pas de lumière, pas de couleur,
absolument vraiment zéro,
rien.
Zéro,
zéro. Absolument okay. Rien, zéro, une barre. Donc, je dirais que je m'en suis aperçu peut-être un petit peu au niveau de la garderie. Au niveau de l'école, tu commences l'école, bon, mes enfants courent partout, évidemment. Donc, dans mon cas, c'était pas pareil, évidemment. C'est sûr que j'étais pas intéressé nécessairement par les mêmes choses que les autres enfants, évidemment, n'ayant pas de vision. Donc, c'est sûr qu'un enfant qui part à courir, ben moi, je reste assis là puis je bouge pas.
Mais ça va un peu plus tard quand même avant de comprendre pourquoi. Tu sais, parce que tu voyais que tous les enfants couraient, ou en tout cas la majorité, que toi, ça te disait rien. Mais c'est un peu plus tard qu'on comprend la raison fondamentale de ça, j'imagine.
Exactement. Mais c'est certain aussi que ben, mes parents, surtout ma mère, m'a quand même initié très, très jeune au braille, tout ça, ma mère, ma grand-mère ont adapté beaucoup, beaucoup de matériel en braille, tout ça. Donc, c'est sûr que j'étais différent. Puis bon, ben... Ne serait-ce que, bon, mon supermarché, monsieur, moi, évidemment, je peux pas fixer avec mes yeux, qui s'approche. Hein, que c'est qui a, lui? En disant ça à ma mère directement. Donc, ben là, que c'est qui a? Normal, moi.
Les gens, des fois, manquent un peu de délicatesse aussi.
Bon, des fois, effectivement, ça peut arriver. Surtout à l'époque que c'était très, très peu connu. Je fais quand même partie des pionniers qui ont été intégrés. Donc, à l'époque...
Mais si tu permets, on va juste régler un petit détail. Je pense pas que ça te dérange.
Pas de problème.
Mais tu dis qu'à l'époque... Mais c'est pas l'époque des dinosaures non plus, là. T'es né, quoi, en 1987. Donc, tu vas avoir 30 ans cette année.
Exactement.
T'es même pas encore 30 ans.
Je m'en viens vieux, là.
Tu commences à ressentir la vieillesse à l'approche de la trentaine.
Eh oui.
Mais déjà à cette époque-là, tu dis que c'était très peu connu dans le sens où les gens allaient plus comme à Jacques Ouellet à ce moment-là?
Ben, ou... Dans le sens que, par exemple, dans la région de Québec, les personnes aveugles étaient plus... c'était l'école Saint-Charles.
OK, toi, t'es né à Québec?
Oui, je suis né à Québec, exactement.
Okay.
J'ai fait 2 ans de mon enfance à Sept-Îles. Lorsque pas un ours qui veut se rendre là-bas parce qu'il fait trop froid, tout le monde dort. C'est plate, il n'y a rien à faire dans ce bout-là. Puis c'est ça, donc ensuite de ça, je suis revenu à Québec faire mon primaire, tout ça. Et
là, cette île, c'était-tu pour j'imagine, pour tes parents?
Ben exactement, mes parents travaillaient là-bas, donc il y avait eu un contrat là-bas. Donc c'est sûr qu'en 2 ans et 4 ans, on s'entend que c'est... Bon, de toute façon, tu es généralement à la maison, surtout, moi, j'ai commencé la garderie quand même assez tard, aux alentours de 4 ans.
Okay.
C'est quand même assez rare aussi, à cette époque-là, les bébés commençaient vraiment la garderie très, 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 très tôt, là. C'est comme venu un petit peu plus tard aussi. Donc, moi, j'ai vraiment commencé juste comme à peu près un an avant de rentrer à l'école.
OK. Puis là, à la maternelle, tout ça, est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu gardes des souvenirs un peu de ça?
Ben, à la maternelle, j'ai eu une enseignante qui était pas très, très dadon, qui était malheureusement un petit peu comme « C'est quoi cette bébête-là? » en parlant de moi.
Bon, c'est...
Mais, ouais, mais ça, malheureusement, ça arrive toujours une fois dans une vie. On en parlera après ça au secondaire. donc, c'est ça, l'enseignante était un petit peu so-so. Par contre, l'adaptation s'est quand même très, très bien faite. L'école était ouverte à accueillir une personne qui avait un handicap visuel. Donc, j'ai eu des services d'adaptation, tout ça. Ça s'est quand même très bien déroulé, là.
OK. Puis là, ça, bon... Là, ça s'est poursuivi au primaire, tout ça. As-tu toujours la même impression que bon, tu étais bien accueilli, tu étais quand même outillé pour faire face à la musique, on peut dire?
Oui, parce que j'ai commencé l'apprentissage vraiment du braille avec un professeur qualifié pour la chose dès la maternelle. Donc, quand je suis rentré en première année, j'avais complété même mon brin intégral. Puis là, ils m'ont dit, bon, ben là, on est amis, on sait plus quoi te montrer, donc on va t'intégrer avec l'ordinateur. Donc, j'étais vraiment dans une école régulière, l'école de quartier, puis j'avais donc les services à l'école, soit offerts directement par l'école ou offerts par la commission scolaire de Charlebourg, aujourd'hui la commission scolaire des Premières Seigneuries.
OK. T'as pas trop senti de problème. T'as réussi avec l'ordinateur, avec le braille que t'as appris jeune, t'as réussi à faire ton cours primaire. Après ça, là, tu dis, on va en reparler, le secondaire. Est-ce qu'au secondaire, il y a eu des difficultés?
Ça, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, à la fin du primaire, il y avait deux choix possibles au niveau du secondaire. Il y avait donc le choix régulier, il y avait le choix du PEI, donc le programme d'études internationales, programme dans lequel j'ai tenté de faire application. Le directeur de la polyvalente était très, très, très borné, il voulait absolument rien savoir à ce que je fasse le PEI, etc. Donc, c'est là où ce que ça a malheureusement un petit peu dégénéré. Manque d'ouverture de l'école, malheureusement, de ce côté-là. Mais j'ai quand même complété, on n'a pas le choix régulier parce que après une rencontre d'à peu près 8 heures qui a fini un vendredi soir à 9 heures, on n'a pas nécessairement eu vraiment d'autre choix, mes parents et moi-même, de poursuivre donc le programme régulier seulement.
OK. Ce qui allait quand même un peu à l'encontre de ce que tu aurais aimé.
Exactement. Okay. C'est sûr que j'étais intéressé de faire le programme d'études internationales, mais malheureusement, ça n'a pas été possible.
Ça n'a pas été possible. Donc là, ton secondaire s'est fait normalement, régulièrement?
En fait, j'ai fait donc un an et demi du secondaire à l'école de quartier. Eu beaucoup de problèmes d'adaptation, le corps enseignant n'était pas nécessairement tout à fait ouvert et l'enseignant spécialisé qui avait été assigné a, disons, causé quelques problématiques. Par la même occasion, mes parents ont décidé de déménager dans la région de Montréal.
OK.
Et c'est à ce moment-là que j'ai intégré Jacques Ouellette au niveau régulier pendant deux ans et demi.
OK. Mais tes parents sont pas est-ce qu'ils sont déménagés en fonction que tu puisses aller à Jacques Ouellette ou si ça n'avait pas de rapport?
Eux autres sont déménagés à Ville-Saint-Laurent, qui est un coin quand même assez isolé de Montréal. Mm-hmm. C'est ce que j'appelle un coin de riche.
Ouais.
Malheureusement, c'est quand même assez difficile d'accès. Par contre, Jacques Ouellette offre le transport scolaire, donc c'était quand même possible de moyenner avec ça, effectivement.
OK. Mm-hmm. Et là, comment c'est l'arrivée à Jacques Ouellette à l'âge, tu t'es rendu à quoi, 14 ans?
13 ans? Ouais, 14 ans, je pense. Mm-hmm. Oui, 14 ans, je dirais. Ça s'est bien déroulé. J'ai visité l'école à l'époque avec le directeur qui était... oh mon Dieu, j'oublie complètement son nom.
Une dame?
Non. Avant Madame Leclerc, Tousignan, Jean-Louis Tousignan.
OK.
C'est ça. Donc, j'ai visité l'école avec M. Tousignan. J'étais intéressé donc, à poursuivre là-bas. À l'époque, il y avait un programme régulier qui existait à Jacques-Ouellette. C'était pas évidemment des grosses classes. En dernier, où tout le secondaire régulier, on était à peu près, je pense, c'était 9, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une année qu'on était 9, là, c'est pour dire. Mais ça s'est bien déroulé, donc je suis rentré là-bas. Il y avait quand même beaucoup d'élèves voyants à Jacques-Ouellette. Beaucoup plus, je dirais, quasiment, qui avaient quand même une bonne vision, surtout la première année, qui avaient vraiment une déficience visuelle. Donc, cette époque-là, oui, j'étais intégré au groupe, mais je parlais beaucoup plus avec Jérôme Plante à cette époque-là.
Oui, Jérôme Plante, oui, qu'on a reçu d'ailleurs à l'émission récemment. Et puis, est-ce que, parce que, avais-tu eu des contacts quand même avec d'autres non-voyants du temps que tu étais à Québec?
Oui, effectivement, j'avais quand même des contacts avec d'autres personnes non-voyantes, surtout de la région de Québec. Et juste avant de rentrer à Jacques-Ouellette, j'avais eu la chance de faire une initiation, une classe de chien guide d'initiation chez Mira.
OK.
Et je pense que j'avais participé un ou deux étés au camp de vacances offert par la Fondation des aveugles du Québec.
OK.
Et aussi, c'est vrai, j'avais eu la chance de participer au programme CAFNET en 2001, sachant que moi, je suis rentré à Jacques-Ouellette en 2002. Donc oui, effectivement, j'avais déjà des contacts de ce côté-là.
Et c'était quoi ce programme-là exactement?
CAFNET, c'est un programme qui est organisé par INCA.
OK.
C'est un programme qui regroupait, c'est une semaine vraiment, donc à Montréal. Les jeunes ont couché là-bas directement, donc dans les résidences du CAM. C'était moitié technologique, moitié loisir.
OK.
Donc, le matin, c'était justement, on apprenait la conception d'un site web. Puis, bon, ben dans l'après-midi, soirée, il y avait toutes sortes d'activités, comme par exemple la simulation d'une émission à Radio-Canada, jouer au goalball, l'escalade, le vélo tandem, toutes sortes de trucs comme ça, si on peut dire.
OK. C'était présenté comment, ça? C'était-tu comme une initiation à la vie avec des non-voyants, puis de vous initier à certains sports, à certaines activités, c'était...
Ben, c'était plus à la base un camp technologique, orienté okay. technologique, mais c'est sûr que ben ça avait aussi l'effet d'initier à certaines activités, puis de créer une activité de groupe entre personnes non-voyantes, sachant que c'était des groupes de, je pense, 6 ou 7, là, quelque chose comme ça.
OK. Puis, si on revient un petit peu en arrière, est-ce que c'était difficile pour toi de te faire des amis dans le temps de... Tu sais, parce que tu disais à la garderie, bon, déjà, tu voyais que vous n'aviez pas les mêmes possibilités, les mêmes champs d'intérêt. Est-ce que ça se rattrape, ça, plus tard à l'école? Est-ce que...
Ben, je dirais que ça s'est rattrapé un petit peu plus, peut-être fin secondaire, cégep, un petit peu. Ben, à Jacques-Ouellette également, mais au primaire, je n'ai pas nécessairement tant d'amis voyants que ça. C'est sûr que oui, j'avais des amis, entre autres, une amie au primaire, ben, quelques amis au primaire qu'on se parle encore, mais c'était beau, j'étais plus dans mon coin à faire mes affaires, comme on dit.
OK. Puis là, tu disais qu'aussi en première année, à 6 ans, ils t'avaient initié à l'ordinateur, mais les autres élèves, c'était pas le cas. Là.
Non, pas encore.
Ils faisaient pas l'ordinateur si jeune à ce moment-là. Est-ce qu'à ce moment-là, ça a été comme une découverte pour toi? Est-ce que, ben, tu l'as dit un peu en commençant, mais comment ça s'est concrétisé, ça? Est-ce que c'est là que ça t'a donné le goût, peut-être, d'être assez fonceur niveau technologique. Comment tu t'en es aperçu de ça?
Ben, c'est sûr que quand tu peux jouer avec la machine, puis ben évidemment, il y a des problèmes à régler, etc., que, bon, ben, des fois, les intervenants ne savent pas toujours. Ben, à un moment donné, c'est sûr que dans un cours plate, ben, tu t'amuses puis tu gosses. C'est ça. Mais c'est sûr aussi que j'ai quand même eu toujours eu une attirance pour la technologie. Quand j'étais jeune à 2 ans, j'ai pogné le téléphone puis j'ai monté un bill d'à peu près 100-150$ d'interurbain en Europe, en Allemagne puis en Autriche. Mais bon.
Ah, parce que toi, tu composais n'importe quoi puis en autant que quelqu'un réponde,
c'était. Ouais, une affaire comme ça. Mais je pense que je composais tout le temps les deux mêmes numéros puis à un moment donné, il y a un d'autres qui a appelé la police, je ne sais pas trop.
OK. Et là, rendu à Jacques Ouellet, l'informatique, ça avait-tu la même importance? Est-ce que, comme Jérôme, je sais qu'il est assez technologique aussi, est-ce que...
Mais elle n'était pas beaucoup quand moi je suis arrivé. Okay. C'est sûr qu'il n'était pas nécessairement beaucoup. J'étais quand même un de ceux qui étaient... qui utilisaient le plus la technologie là-bas. Donc, c'est sûr qu'effectivement, j'ai pu aider plusieurs personnes, effectivement, à se faire avec l'informatique au fur et à mesure du temps.
Gens te sollicitaient pour régler leurs problèmes informatiques?
Et... Ouais, ben, il y en a eu, effectivement. Ben, Jérôme, c'est sûr que quand moi, je suis arrivé, il n'avait jamais utilisé Internet aussi.
C'est vrai que tu as connu les débuts d'Internet, toi, là.
Ben, les débuts, pas tant que ça, parce que les débuts, on s'entend que c'est dans les années 90, il y en avait avant moi. Mais ouais, j'ai quand même connu les bons accès
à communauté, là. Oui, quand l'Internet a commencé à être plus là, accessible at large là, à tout le monde dans les foyers.
Ben, je pense que le premier branchement Internet que moi, j'ai pu avoir accès de façon autonome, c'était en l'an 2000 à peu près.
OK.
Un accès commuté, 56K, sur une ligne téléphonique. Ouais, ouais. Moi, j'ai connu la bonne vieille période. « Hey, lâche Internet, je veux le téléphone!
» Ah oh, oui, que l'Internet occupait la ligne.
Ouais, exactement, oui,
okay.
C'est ça.
OK. Mm-hmm. Ben, moi aussi, je l'ai connu, mais j'ai 10 ans de plus que toi, comme fou.
Ouais, non, mais c'est ça.
C'est sûr et certain que... Je l'ai connu aussi, mais toi, tu as commencé vraiment avec ça, là.
Oui, ouais. Le commuté. Ben, la haute vitesse existait aussi déjà à cette époque-là, mais okay. Pas qu'on était en commuté parce que, bon, à Québec, ça ne rentrait pas nécessairement bien. Les réseaux câblés n'existaient pas encore, tout ça. Donc, principalement le commuté à cette époque-là. Là.
OK.
De toute façon, il y en avait beaucoup. C'était pas non plus être rejet d'être commuté en l'an 98-2000.
Non. Et puis là, tu me disais que tu as fait 2 ans et demi à Jacques Ouellet?
2 ans et demi, oui, okay. Exactement.
Puis après, tu as retourné finir ton secondaire à la polyvalente.
La polyvalente, ben là, à Montréal, donc la polyvalente à Ville-Saint-Laurent.
OK.
En préparation, en vue du cégep. Pourquoi? Parce que Jacques Ouellet ne donnait pas les cours chimie physique. Sachant que j'ai fait mon inscription dans le programme Sciences Pures à Jean-Paulette, au Palais et à Jean-Brébeuf.
OK. Ça, c'était comme une année préparatoire, mais c'était une année quand même que tu t'es, dans le fond, retrouvé à nouveau avec uniquement des voyants. Là.
Exactement.
Et quand même, chimie, physique, quand on ne voit pas... C'est comment? Comment que...
ben, au secondaire, c'était pas si mal que ça. Ça s'est bien déroulé pour le secondaire. Au cégep, c'était quand même beaucoup plus complexe. Ça dépendait aussi des enseignants parce qu'il y avait quand même beaucoup d'adaptations de matériel à faire de ce côté-là. Malheureusement aussi, ce qui arrive, c'est que même si on envoie transcrire le matériel d'avance, ça se rend pas tout le temps. Donc, il faut faire avec les moyens du bord. Donc, il y a beaucoup de dessins qui doivent être faits, bon, ben, avec un gun à colle ou avec une roulette à pèze ou des choses comme ça.
Reproduire, dans le fond, les dessins, mais de manière maison.
Artisanal, okay. Exactement.
OK. Les moyens du bord, ça a été ça, là.
Et voilà.
OK.
Sinon, ben, des fois, on reçoit le matériel comme 2 semaines, 1 mois après, c'est comme, bon, OK.
C'est que ça a été un peu comme une course contre la montre, là, entre le matériel qui n'arrive pas, une façon d'adapter les documents à manière maison, les professeurs qui sont pas toujours, qui doivent sérieusement des fois se demander qu'est-ce qu'ils vont faire pour être capables de t'aider.
Ben, il y a eu des enseignants que ça s'est très, 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 très bien passé. D'autres un petit peu moins, mais il y en a que ça s'est bien passé, qui étaient quand même très ouverts à m'accueillir, tout ça.
Mais là,
il y en a que des fois, c'est un petit peu plus par manque de temps, pas nécessairement par mauvaise volonté, mais plus des fois par manque de temps aussi. Là.
OK. Mm. Il y a diverses raisons.
Situations. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mais là, tu disais science pure, c'est ça?
Oui.
Dans l'ensemble, science pure, c'est... Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi? C'est de la chimie? C'est de la physique?
C'est principalement chimie, physique, mathématiques okay. et l'ensemble des cours de base du cégep, donc cours philo, cours de français.
Oui, qu'on n'y échappe pas, là.
Non, évidemment, les trois cours d'éducation, deux ou trois cours, je pense qu'il y en a deux en sciences pures, les deux fameux cours d'éducation physique. Je pense que c'est deux cours complémentaires, puis...
Et les cours d'éducation physique, tu les as fait?
Je pense que j'en ai fait. Ouais, je pense. Ouais, j'en ai fait deux. Oui, il y en avait trois, j'en ai fait deux, c'est ça.
Et tu faisais quoi comme cours d'éducation physique?
Du conditionnement physique, c'était ce qui était le plus accessible.
OK.
Il y avait une palestre avec une salle d'entraînement, Jean-Paulette. Donc, Jean Brébeuf, je vais l'avoir. Jean Brébeuf, c'est ça. Donc, il y avait une palestre avec une salle d'entraînement, donc c'est le plus accessible. C'est sûr qu'on s'entend qu'on oublie les cours de hockey dans l'aréna. Il y a un paquet parce que de cours, oui, il y a un aréna, Jean Brébeuf, mais... pas nécessairement réalisable.
C'est ça, c'est pas tous les cours d'éducation physique qui sont accessibles.
Non, c'est ça, malheureusement, mais c'est pas grave.
Et là, cette formation-là, c'était une formation au départ qui se donnait en combien d'années?
C'est un DEC, donc 2 ans.
2 ans. Toi, est-ce que tu as pris plus de temps
pour... Je l'ai complété en 2 ans et demi.
Et quand même.
2 ans et demi.
Quand même.
C'est sûr que ce qui m'a un petit peu ralenti, en fait, ce qui a un petit peu moins aidé, c'est que mes parents voulaient absolument que je prenne 7 cours par session à cette époque-là, etc. 7 cours en sciences, c'est impossible à adapter. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des cours aussi que j'ai été obligé de reprendre malheureusement 2 fois.
Parce que la charge de travail était un peu excessive. Mais quand même, 2 ans et demi, ça, une demi-année de plus qu'au départ, c'était plus...
C'est ça, exactement. Quand même, donc, c'est quand même pas si mal que ça. C'est quand même
super bien. Mm-hmm. Puis finalement, tu as tout réussi tes cours, tu as eu ton diplôme, ton papier, comme on dit.
Exactement.
OK. Et là, c'était quoi ton but après?
Mon but, c'était évidemment de poursuivre à l'université. Donc, j'étais intéressé par l'informatique. Donc, je me suis inscrit au bac en informatique, génie logiciel à l'UQAM. J'ai été accepté. Donc, j'ai complété mon bac en développement, programmation. Chose qui s'est très, très, très bien déroulée.
Oui, là, oui. Les professeurs étaient bien... bien ouvert et tout ça.
Bon, c'est sûr que dans tous les cours, il va toujours avoir un prof qui va être super le fun, puis il va en avoir un qui va être plate à mort. Mais ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre ça. Puis ça, je pense que c'est même pour tous les étudiants.
C'est ça, mais au niveau de ton handicap, ça allait. Là. Exactement. Il n'y avait pas de... Est-ce que ça demandait des mesures particulières?
De l'adaptation, donc c'est sûr, au niveau des documents, faire affaire avec des transcripteurs, tout ça. Moi, ce que je demandais directement, c'est au professeur, c'est gardez, envoyez-moi le plus possible de trucs en format électronique. On les accepte, puis dans le fond, moi, je peux poursuivre avec ça.
Tu servais du document, dans le fond, du professeur, son document informatique?
S'il le rendait disponible et qu'il acceptait, dans certaines situations, c'était possible. Donc, ça pouvait accélérer les délais, grandement accélérer les délais. Donc, c'est ça. Oui, effectivement, j'ai pu utiliser ça. Sinon, les adaptations normales à l'université, c'est-à-dire, on a le droit à un temps supplémentaire pour les examens, on a le droit à... au labo, etc., une chose comme ça. Mm-hmm.
Mais les adaptations, c'était-tu encore le braille ou si tu as eu, du e-texte?
Il y a eu les deux. Il y a eu les deux. L'informatique, c'est sûr aussi qu'il y avait beaucoup de choses qu'à l'époque, c'était plus ou moins possible de représenter en e-texte, donc, parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup de cours de maths dans le programme. Oui, il y a eu du braille en masse. D'ailleurs, j'en ai à donner. Je suis intéressé. 2 bonnes étagères.
Et ta boîte.
Oui, exactement. C'est ça. Pendant mon bac à l'université, c'est un bac avec stage. Donc, j'ai eu la chance de travailler à l'Auto-Québec Tout ça, donc en 2008-2009, je pense que je travaillais 2 ans là-bas. Sinon aussi, j'ai beaucoup participé au développement de l'Association des étudiants handicapés de l'UQAM qui n'existe plus aujourd'hui, ou je pense qu'elle a peut-être pris une autre forme ouverte par quelqu'un d'autre. Mais donc c'est ça, j'ai pu effectivement travailler et m'impliquer dans le développement de l'association.
Puis, à l'Auto-Québec, c'était quoi tes tâches?
À l'Auto-Québec, dans le fond, moi, j'ai été embauchée à la base pour donner un cue, si on veut, à l'équipe de développement web au niveau de l'accessibilité du web. Donc, qu'est-ce que ça requérait? Qu'est-ce qu'un lecteur d'écran? Pourquoi on travaille sur l'accessibilité du web? C'est quoi l'intérêt de faire ça? Je me suis intéressée à l'accessibilité du web quand j'ai eu la chance d'avoir un emploi étudiant en 2004. Au secondaire, donc un emploi d'été offert conjointement INLB FAQ, Fondation des aveugles du Québec, et on avait donc le mandat d'évaluer les sites web de la Ville de Montréal, et je pense qu'on avait des sites gouvernementaux, puis de grandes chaînes, genre je pense qu'il y avait un IGA à travers ça, une couple d'affaires comme ça. Là.
OK.
Donc, c'est ça qui m'a grandement intéressé au niveau de l'accessibilité du web. Ça m'a permis aussi de poursuivre à l'Auto-Québec par après.
OK. Mais quand on parle de l'accessibilité du web pour les gens qui ne le sauraient pas, est-ce que ça inclut de rendre le plus possible les sites Internet accessibles? C'est quoi exactement? Est-ce que c'est comme des belles paroles ou...
Bien, en fait, l'accessibilité du web, c'est des objectifs concrets. Donc, le standard regroupe plusieurs objectifs qui doivent être respectés. Par exemple, le titre de la page doit contenir le titre de la page avant le rappel du nom du site, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un guideline pour donner, dans le fond, des points de repère au développement. Et là, c'est sûr que tout un défi parce que, des fois, si on rend accessible une certaine partie, ça peut venir à briser l'accessibilité de l'autre. Et si on rend accessible pour le lecteur d'écran, il y a quelqu'un d'autre à quelque part qui va faire comme hey, non, mais moi, j'aime pas ça. Donc là, c'est de s'asseoir avec tout ce beau monde-là, de discuter et d'essayer de trouver un compromis généralement.
Mais en général, c'est que les constructeurs de sites web sachent comment bâtir leur site puis qu'il soit le plus accessible possible en partant.
C'est ça qui est visé. Puis, en accessibilité, souvent, c'est qu'on va aussi évaluer le contenu d'une page web pour dire au concepteur, au webmaster, à l'équipe derrière, ça devrait être changé, ça devrait être ajusté de telle façon, etc., etc. Là.
Mais là, je ne veux pas te poser des questions qui pourrait te rendre mal à l'aise ou te mettre dans l'eau bouillante, mais je vais quand même t'en poser un peu parce que vu que tu aimes beaucoup la technologie, tu aimes beaucoup Internet, est-ce que tu trouves que ça progresse bien? Est-ce que toi, quand tu... Je sais pas, moi, je vais te donner un exemple bien anodin, là. Admettons, t'entends une publicité à la radio, bien sûr, souvent, ils vont nous inciter à aller sur le site. Est-ce que toi, tu es satisfait quand tu vas sur des sites Internet de l'accessibilité?
Ça, là, au niveau de l'accessibilité, ça dépend toujours. Il n'y a pas un site qui est conçu de la même façon. C'est un petit peu le même principe de se dire, on visite des maisons parce qu'on veut acheter une maison. Es-tu satisfait? Il n'y en a pas une qui va être disposée les pièces de la même façon. Donc, à quelque part, c'est vraiment de regarder le site, puis si on est insatisfait, d'écrire au programmeur. La technologie, au début, a beaucoup, beaucoup aidé au niveau de l'accès à l'information pour les personnes handicapées, surtout visuelles. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'évolutions rapides, il y a tellement de mises à jour régulières de plein de choses, non-stop, qu'à un moment donné, c'est que même si on veut, c'est très, très difficile à ce que les aides adaptées puissent toujours suivre. Donc, ce qu'il faut généralement, c'est y aller avec... Moi, quand j'y vais, par exemple, sur un site, je me gênerai pas d'y aller avec 2, 3, peut-être 4 plateformes si je vois que la première fonctionne pas. Mais encore là, c'est que il y a des standards pour le gouvernement, il y a un standard global Gateway CAC 2.0, mais encore là, les concepteurs de sites web ne sont pas assujettis à suivre ce standard-là.
Okay.
À moins d'être un site gouvernemental au Québec. Il n'y a pas de loi à l'heure actuelle qui force quelqu'un à le respecter à 100%.
Okay.
Donc, on peut se ramasser que il y a des efforts qui sont effectués. Par exemple, Radio-Canada, il y a des efforts qui sont effectués. Ils veulent rendre... ils ont des projets du CRTC, tu sais, ils veulent rendre accessible. Mais encore là, ils ont beaucoup de travail à faire. Puis à l'heure actuelle, il y a encore des problématiques qui existent de ce côté-là.
Mais toi, tu as étudié là-dedans, tu t'es intéressé à ça, tu sais comment construire un site web pour qu'il soit accessible. Mais qu'est-ce que tu conseilles à monsieur, madame, tout le monde qui font des visites de sites, qui n'arrivent pas à naviguer de façon satisfaisante, puis qui voudraient bien écrire au webmaster, mais qui ne savent peut-être pas quoi dire?
Ben, généralement, en fait, c'est d'appeler le support, d'expliquer, moi, je suis un utilisateur handicapé visuel, j'utilise une technologie d'assistance, un lecteur d'écran, un logiciel permettant de grossir les caractères, et j'arrive pas à trouver l'information. J'aurais besoin d'aide et j'ai comme l'impression que le site n'est pas facile à utiliser. Donc, plus il y a de gens qui vont sensibiliser ces entreprises-là, juste en les appelant, en demandant ça, ben quelque part, ils n'auront pas nécessairement le choix de bouger à quelque part.
Okay.
Donc, c'est vraiment d'appeler, de demander de l'aide. La majorité des entreprises, par contre, risquent de répondre « Ah, ben regardez dans le coin en haut à droite, là, puis cliquez là, là. » c'est sûr que ça peut être effectivement plate à entendre comme réponse, mais là, c'est de sensibiliser. Ouais, mais moi, c'est pas présenté comme ça. Je peux pas voir ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Ouais, mais là, votre navigateur, il doit être défectueux. Videz votre cache. Non, vous comprenez pas que j'utilise une aide adaptée, une technologie d'assistance. Ça, il y a encore beaucoup, beaucoup de conseillers, support technique et même d'entreprises qui ont pas la moindre idée de ce que c'est. Surtout du secteur privé. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui n'ont pas la moindre idée.
C'est que c'est dans le fond d'essayer de leur expliquer mm-hmm. ça, de leur expliquer les problèmes qu'on rencontre, et dans le fond, les compagnies, à force de recevoir des appels, devront se tourner peut-être vers des solutions, là, des spécialistes... qui vont pouvoir les guider.
Exactement. C'est sûr que dans l'emploi que j'exerce actuellement, on peut offrir de la formation en privé et du support, moyennant évidemment un taux horaire. On a un taux horaire pour cette activité-là. Si ce n'est pas directement lié à nos produits, vous avez besoin d'aide, naviguer sur un site web, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec vous. Ou sinon, si vous appelez la compagnie aussi, il y a encore des associations pour la défense des droits, qui vont vraiment donc procéder à, si on veut, donc de la défense collective des droits du côté, par exemple, du RAM à Montréal, que vous pouvez aussi les informer de votre plainte de ce côté-là.
OK. Donc, les organismes de défense de droits sont déjà au courant de... Ils font déjà des démarches dans ce sens-là.
Exactement.
OK. Là, c'est sûr qu'on va vite un peu. Je sais que tu as eu beaucoup d'expérience de travail, de soutien technique, tout ça. Mais là, j'aimerais ça, si tu le veux bien, que tu parles un peu de l'emploi que tu occupes en ce moment. Si tu veux bien.
Oui, à l'heure actuelle, donc depuis 2014, donc c'est ça, je suis partie en 2014 du regroupement des aveugles en bloc du Québec, sachant que je travaillais là comme agent de promotion de technologie. Je suis partie de là, je me suis fait offrir un contrat chez Canadialogue. Qui a débouché sur une permanence. Canadialogue, c'est une entreprise qui s'occupe de la vente, de la promotion des technologies adaptées pour les personnes qui ont une déficience visuelle partielle ou totale. Donc, on s'occupe de la vente, de la distribution au Canada de plusieurs produits. On s'occupe également donc d'offrir le support sur ces produits-là. C'était un des objectifs aussi d'embauche, donc que je puisse offrir le support au niveau des produits Braille. développe également certains nouveaux produits. Autrement, on offre également de la formation en privé, donc sur les technologies. Donc, ben, vous voulez une formation sur, je ne sais pas, l'utilisation de Windows, vous avez besoin d'aide, on peut même en faire de façon à distance. Donc, de la formation, du support technique sur toutes sortes de choses qui n'ont pas nécessairement, qui n'est pas nécessairement relié directement à nos produits.
Mais qui va aider dans le bon fonctionnement, dans le fond, de l'informatique en général.
Donc. C'est ça, exactement. Okay. Donc, par exemple, ça pourrait être iPhone, ordinateur, quelqu'un à limite a de la misère avec son imprimante. C'est sûr que si la personne nous paye, ça va me faire plaisir de l'aider. Sinon, on offre également pour les entreprises certains services conseils, donc pour des écoles, pour des regroupements, principalement au niveau de l'accessibilité du web, des documents et toutes sortes de services conseils, par exemple. Bon, ben, on a besoin d'utiliser Jazz, former des employés. On offre des services en entreprise également. Et sinon, on offre aussi des services en accessibilité du web à la demande.
OK. Donc, c'est assez large quand même.
Voilà.
Et puis, est-ce que ça existe depuis longtemps, Canadien?
Ça existe, j'ai pas l'année exacte de fondation, mais avant 2010, si je me rappelle bien.
OK.
Oui. C'est quand même depuis les années 2000. Là, ça, c'est sûr que ça fait pas 25 ans.
C'est moyennement récent.
C'est ça, là, exactement.
OK. Là, tu as dit un mot quand même assez important. Dans l'explication, tu parlais d'iPhone. Moi, ce que je voudrais savoir, dans le fond, c'est que, bon, là, il y a de plus en plus de non-voyants qui utilisent des iPhones.
Effectivement.
Et parce que, bon, Apple a quand même, à la base, offert une accessibilité qui avait du bon sens. À moins que je me trompe, là, tu me corriges.
Mm-hmm. Plus que les autres fournisseurs.
C'est ça. Ils ont une longueur d'avance.
Ils se sont démarqués, disons.
Oui, ils se sont démarqués puis ils ont maintenu quand même une bonne accessibilité.
Exact.
Mais toi, je te mets n'importe quel téléphone dans les mains, c'est pas un problème pour toi. Là. Tu vas essayer de le faire fonctionner, tu vas essayer de t'en sortir.
Du côté Apple, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Du côté Android, généralement, il va toujours avoir possibilité... généralement, la première fois, peut-être avec des yeux, d'activer le lecteur d'écran. Malheureusement, sur Android, il y a tellement de modèles de téléphones. Il y a des constructeurs qui vont mettre des surcouches par-dessus, entre autres Samsung, qui vont faire en sorte souvent que le lecteur d'écran va être très, très difficile à utiliser ou encore que le fournisseur va créer un lecteur d'écran qui n'est pas aussi mise à point que du côté de TalkBack. C'est sûr qu'aussi, si on parle, par exemple, du côté de BlackBerry et tout ça, c'est quand même beaucoup en déclin. On en voit de moins en moins. Il n'y a presque pas d'outils d'accessibilité. C'est sûr qu'on va essayer d'adapter le plus possible. Mais c'est sûr que les deux restent, en premier lieu, iPhone, et en second lieu, du côté d'Android.
Donc, ce que tu me dis, c'est que des fois, l'accessibilité est difficile. C'est difficile d'accéder à l'accessibilité.
Surtout sur des téléphones. Sur iPhone, il n'y aura pas nécessairement de problème. Mm-hmm. Sur iPhone, ça va parce qu'il y a toujours façon d'activer VoiceOver maintenant, soit à l'aide de Siri ou à la limite, en dernier recours, si on ne peut absolument pas, on va le plugger dans un ordinateur puis on va l'activer via iTunes. Là. Android, des fois, ça peut devenir plus compliqué si le téléphone n'a jamais été utilisé avec l'accessibilité.
Un téléphone neuf, exemple, là.
Neuf, généralement, quand il sort de la boîte, c'est possible de l'activer, par exemple, durant les first steps de configuration. Durant les premiers pas, généralement, c'est possible. Sauf que si l'appareil a déjà été configuré, là, des fois, on peut se ramasser qu'il va falloir aller le cocher dans les settings, etc. Là.
OK.
Ouais.
D'accord.
C'est comme, par exemple, j'ai acheté, mais ça, c'est une classe à part, j'ai acheté une télé il y a un an, d'ailleurs, première télé... nativement accessible, qui parle avec la manette. Là. Attention, par contre, ça ne donne pas accès au décodeur Helico, Bell, ça donne seulement accès au menu de la télé.
La télé.
C'est ça. Mm-hmm. C'est une Smart TV, c'est une télé Android, tout ça. Là, on s'entend que même en sortant ça de la boîte, c'est pas possible d'activer l'accessibilité. Donc, moi, j'ai demandé carrément, quand on achète de ces télés-là, je dis au gars au magasin, rendu habitué, qu'il active. Va-t'en dans le setting, turn talkback on, puis après ça, on va s'organiser avec. Là. C'est ça.
OK. Ça, ça peut prendre des fois des yeux pour activer le fonctionnement, puis après...
Exactement. Sur les produits Apple, par contre, c'est très, très rare qu'on a vraiment besoin d'yeux pour activer le produit, là, ben, à moins que, je sais pas, là, il soit débranché d'Internet, il n'y ait pas Siri, puis en plus de ça, encore ça n'a pas été configuré. C'est rare que ça arrive aujourd'hui, là, un appareil qui n'est pas connecté à Internet, c'est rare, mais ça peut limite arriver, mais c'est pas monnaie courante.
OK. Mais toi, tu connais quand même plusieurs façons de te sortir de cette impasse-là.
Bon, limite, on le plug USB dans l'ordinateur, puis on va aller le cocher, là. Limite, là.
OK. Mm-hmm. OK. Ben écoute, Alexandre, j'aurais le goût de dire, on va faire la pause puis parfait. Pour les petites nouvelles. Puis j'aimerais ça que tu nous parles peut-être de deux ou trois produits, peut-être de Canadialogue où tu travailles, puis que tu nous dises un peu leur utilité, leur fonctionnement principale fonction.
Sans l'intérêt trop... du produit.
Oui, c'est ça. Parfait. Sans trop rentrer dans toutes les technicalités, là, mais juste savoir que les gens connaissent le produit, savent un peu de quoi qu'il en retourne.
Parfait.
Donc, on fait la pause, puis on revient tout de suite avec notre invité, qui est Alexandre Bellemare. Bonjour et bienvenue à la section Petites annonces et nouvelles. Je vous rappelle tout d'abord qu'il est toujours possible de communiquer avec nous. La façon la plus simple est en passant par notre site Internet. L'adresse est www.martinchouinard.com. Et je vous rappelle aussi que les autres façons de communiquer avec nous sont toujours accessibles. Notre page Facebook s'appelle Connaissez-vous et vous pouvez également passer par YouTube. Donc, ma petite annonce, nous sommes au mois de mai, les assemblées générales se poursuivent. Cette semaine, je vous convie à l'Assemblée générale annuelle du Club des handicapés visuels Ville-Marie. Ça se tiendra le samedi 27 mai 2017 au Centre Sainte-Catherine d'Alexandrie, 1700 rue Amherst à Montréal. Il y aura, suivant l'assemblée, un souper barbecue et une soirée de bingo. Le prix est de 15 $, cela inclura une consommation. L'accueil se tiendra à 14 h, le début de l'assemblée à 15 h, le souper vers 17 h 30, le bingo à 19 h et la fin de la soirée à 21 h 30. Vous pouvez déjà faire vos réservations auprès de Madame Linda Noël au numéro de téléphone 514-255-3434. Je répète, Madame Linda Noël, 514-255-3434. Je vous disais tantôt que nous sommes déjà au mois de mai et on s'en va tranquillement, mais sûrement, vers l'émission du 12 mai, qui sera notre émission numéro 11, déjà. Et je vous fais une petite confidence, un petit secret, ne le dites pas, mais c'est une émission coup de cœur que je vous présente, car l'invité, c'est quelqu'un que j'ai connu au milieu des années 80 à l'école Jacques Ouellet. Il s'agit de Lee Julien. Je sais que certains le connaissent, d'autres sûrement pas, mais Lee a été quand même assez discret dans le monde des non-voyants. Il l'a d'ailleurs avoué pendant l'entrevue, mais l'extrait que je vous fais entendre aujourd'hui pour vous donner vraiment le goût d'écouter l'entrevue la semaine prochaine, c'est Lee qui nous raconte à quel point il était casse-cou et pour quelle raison. C'est parce qu'il a une très bonne philosophie dans la vie, c'est de ne jamais s'empêcher de faire ce qu'on a envie de faire.
Moi, je manquais pas de couilles. J'ai jamais eu peur de rien, contrairement à aujourd'hui.
Aujourd'hui, t'as plus peur de
Ah, ça y est, je ferais jamais tout ce que j'ai fait dans ma vie quand j'étais jeune. C'est impensable. Je faisais du snowboard, je faisais du skateboard avec les amis. Moi, là, je faisais jamais je m'empêche de faire ce que les autres faisaient.
Oui, ben, OK.
Puis je me suis pété à la gueule, là.
OK.
Mais comme faux, là. Tu sais? Mais j'ai recommencé encore. J'ai la tête la plus dure que la Terre a portée, sûrement. Puis ça a des bons et des mauvais côtés, parce que ça a fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui.
Alors voilà, pour l'intégralité de l'émission avec Lee Julien, je vous convie à partir du vendredi 12 mai 2017, bien sûr, sur les plateformes énumérées précédemment. En attendant, on poursuit l'entrevue avec Alexandre Bellemare. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Alexandre Bellemare. Alexandre qui, malgré son relativement jeune âge et sa grande passion pour l'informatique, a quand même d'autres intérêts dans la vie. Hein? Alexandre est quand même assez impliqué socialement, surtout dans le monde des handicapés visuels quand même.
Effectivement, je m'implique dans la communauté handicapée visuelle. Donc, je fais partie du conseil d'administration de la Fondation des aveugles du Québec. Pardon, de même que celui du Conseil canadien des aveugles de Longueuil. Donc, c'est ça, au niveau du Conseil canadien des aveugles de Longueuil, je suis vice-président. Et je m'occupe donc principalement, entre autres, de la production audio, bah, du bulletin, et aussi donner un coup de pouce au niveau technologique. Donc, oui, effectivement, je m'implique un petit peu
La communauté. Conseil canadien des aveugles, qui est un club de loisirs.
Exactement.
Puis la Fondation des aveugles du Québec, eux, ils font beaucoup de choses. Là.
Ben, la Fondation des aveugles du Québec, c'est deux missions principales, exactement. C'est le loisir, l'habitation. C'est vraiment les deux missions principales. C'est sûr, par contre, qu'il y a beaucoup de petits à côté un petit peu partout aussi, évidemment.
OK. Mais on revient à la technologie, à ton lieu de travail qui est Canadialogue, et de certains produits qu'ils offrent.
Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on offre chez Canadialogue? Comme je le disais tout à l'heure, c'est plusieurs produits braille et basse vision. Je vais vous parler un petit peu plus des produits braille sur lesquels j'ai la possibilité de travailler. Du côté des produits braille, donc c'est sûr qu'on commercialise le lecteur d'écran Jazz, le logiciel OpenBook que probablement plusieurs personnes connaissent. Sinon, depuis près d'un an maintenant, on a démarré un projet de commercialisation d'un ordinateur portatif miniature. C'est environ la grosseur, je dirais à peu près, là, peut-être, mettons, de deux iPhone 6S, là, peut-être plus, là, ceux qui ont les grands écrans, mis un par-dessus l'autre, ou pour les personnes qui ont ça, là, des petits disques durs USB là, portatifs là, oui, qui rentrent dans une poche. Là. L'ordinateur est à peu près cette grosseur-là. Okay. Et le but de l'ordinateur, c'est sûr que c'est pas un PC fait pour être un PC gamer, pour quelqu'un qui prend des courriels, qui écrit du texte, qui navigue un petit peu sur le web, etc. C'est très intéressant, c'est un petit PC correct. Et la beauté de tout ça, c'est que, de un, c'est petit parce qu'il n'y a pas d'écran, donc ça rentre dans la poche. Son nom s'appelle le kangourou, donc qui fait évidemment allusion au fait qu'il rentre dans une poche. Et donc, tout peut être connecté de façon sans fil au clavier.
OK.
Donc, avec Kangourou, on fournit moyennant un coût supplémentaire, donc un clavier sans fil, un haut-parleur sans fil. On fournit quelques accessoires comme ça pour une meilleure utilisation du PC. Pour les utilisateurs, c'est un PC utilisant Windows, donc un PC tout à fait normal qui utilise Windows 10, sur lequel on s'occupe, nous, chez Canadialogue, de vous installer vos adaptations. Donc, c'est vraiment là, un PC tout à fait normal. Vous allez avoir, par exemple, là, votre bureau, toute la même chose que vous allez retrouver sur un PC normal. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, c'est ça. C'est vraiment un petit PC de poche. Très intéressant. 32 GB de disque dur, 2 GB de mémoire. Pour Windows 10, ça va très, très bien de ce côté-là. Il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de lenteur. Ça supporte très, très bien du côté de Jazz. Et même si quelqu'un voudrait avec ZoomText, pour éviter, quand il voyage, de se traîner un gros écran dans son sac, bien, c'est possible de brancher un écran sur le Kangaroo. Ou même pour les personnes qui veulent avoir de l'aide, personne avec qui veut vraiment avoir de l'aide, c'est possible de le brancher, par exemple, sur un téléviseur ou sur un écran, en autant que ça supporte donc la technologie HDMI, c'est possible de le brancher.
OK.
Donc, un utilisateur pour avoir un écran à la maison, un écran à l'école, se promener juste avec le petit Kangaroo dans sa poche, brancher ça sur son écran, démarrer s'il y a besoin d'un écran, évidemment.
Au besoin, oui.
Exactement, on démarre ça, that's it, c'est parti. Évidemment, compatible wireless, donc Wi-Fi, compatible Wi-Fi et Bluetooth.
OK.
Donc, c'est possible de se connecter sur Internet de façon sans fil et même d'utiliser son iPhone si vous avez suffisamment de données de l'utiliser en partage de connexion.
OK, c'est que ça l'offre quand même beaucoup de possibilités.
Exactement. Donc, c'est un beau petit jouet. Pour ce qui est du Kangaroo, c'est certain que si vous voulez plus d'informations sur les produits, je laisserai le numéro de téléphone de Canadian Log à la fin de l'entrevue.
OK, parfait. Super.
OK. deuxième produit, c'est le clavier programmable Enterpad. Donc, c'est quoi le clavier programmable Enterpad? C'est un clavier qui a été développé le côté hardware, là, donc la pièce de plastique, a été développée par une personne de Saint-Hubert, donc c'est un produit québécois.
De Québec, exactement. Du Québec, oui.
Et voilà. Et nous, donc chez Canadiana, on a travaillé pour intégrer l'adaptation pour les personnes handicapées visuelles.
Okay.
Donc, vous avez des difficultés à utiliser un ordinateur, vous ne vous rappelez jamais, par exemple, des commandes complexes. Vous voudriez effectuer, ou ne serait-ce que pour gagner en rapidité, effectuer un paquet de commandes en appuyant sur une seule touche. Donc, l'Enterpad, c'est ce que ça peut permettre effectivement de faire. Donc, par exemple, on pourrait très facilement ouvrir un site Internet avec Enterpad. Donc, par exemple, si on veut aller sur Gmail.
52. Terminé. Internet Explorer. Gmail Free Storage and Email from Google. La page contient un cadre 3 régions, 6 titres et 19 liens. Gmail Free Storage and Email from Google.
Seulement qu'en appuyant sur la touche que tu as attribuée à cette fin.
Exactement.
Okay.
Si, par exemple, on trouve que Jazz parle trop rapidement ou trop lentement.
OK, on peut ajuster la vitesse de Jazz seulement en appuyant sur une seule touche encore là.
Donc là, on l'a augmenté.
Ah, c'est ça. Là, c'est moins vite.
Je le ralentis. On redescend. Bon, OK. Donc là...
Là, c'est très large.
Ouais, là, je pourrais encore même le réduire, évidemment.
Oui, oui, oui.
OK. On veut retourner sur le bureau. On appuie sur 1. Et on a intégré des petits sons. Et le but de l'Enterpad, c'est vraiment, là, actuellement, on a un template public, mais c'est vraiment de le programmer basé sur vos besoins. Donc, vous travaillez dans un centre d'appel, vous voulez le programmer. Bon, ben par exemple, la touche 54 ici.
54. Terminé.
Facebook.
Ça vient d'ouvrir Facebook, mais on pourrait très très bien dire que bon, ben la page 54, la touche 54 s'envoie un message à mon boss. Je suis parti prendre ma pause. Ça pourrait être aussi simple que ça.
D'ouvrir la messagerie, d'écrire le...
Certainement.
OK.
Là, vu que c'est un template public, on n'a pas fait en sorte que le système rentre de mot de passe ou quoi que ce soit.
Mm-hmm.
Mais on pourrait très, très bien, sur un site web, programmer pour que, étape 1, on appuie sur la touche, donc ça ouvre le site. Étape 2, ça se rend dans le champ de formulaire. Donc, E, ça appuie sur Enter, ça tape, patate... gmail.com, ça fait table, ça rentre le mot de passe et ça appuie sur Enter.
Ça rentre toutes les étapes.
On va me dire que c'est pas bon parce que j'ai rentré quoi. Mais ça pourrait exactement faire ça. On veut prendre une note rapide?
3. Terminé.
On est automatiquement
dans Word. Là, on peut écrire.
Exactement. Ou par exemple, pour les personnes qui veulent numériser des documents plus complexes, c'est possible à ce moment-là de programmer des touches pour l'OCR. On en a mis une souvent pour les PDF inaccessibles qui contiennent uniquement des images. Tout ce qu'on entend là-dedans, c'est soit vide ou nom du fichier.pdf, nom du fichier.pdf à chaque fois qu'on bouge. Souvent, c'est que c'est un document qui contient une image de texte. Donc, à ce moment-là, on a programmé une touche avec l'Enterpad pour directement utiliser une fonctionnalité de JAWS qui permet de lancer l'OCR du document directement.
Ah, OK.
Mm-hmm.
Et ainsi d'aller décoder ce qu'il y a dans l'image.
Exactement.
Et là, tu me disais qu'il y avait 120 touches qui peuvent avoir 4...
Qui peuvent avoir exactement, chaque touche peut avoir jusqu'à 4 fonctions différentes, à l'exception des 10 touches du bas. Donc, au total, on a 460 fonctions disponibles sur le clavier. Donc, si vous en manque, on a encore un plus gros qui pourra en contenir 360 touches. Donc là, si vous en manque après ça, ben vous avez gagné 1 million.
Non. OK, mais autrement dit, c'est 100% personnalisé selon tes besoins.
Exactement.
Ton ami va avoir le sien programmé selon ses besoins à lui.
Exactement.
Et ça peut être complètement différent et complètement vraiment selon...
Optimisé. Ça, en fonction des besoins. Par exemple, toi, Martin, tu travailles, par exemple, tu dois rentrer régulièrement, on va dire, le code, je sais pas moi, WB-NO,
ouais.
NO dans DBT. Bon, ben WB-NO, ben, on tape une touche qui fait F5, WB-NO, Enter, tu t'amènes de rentrer.
C'est un peu comme de rentrer une macro. Un peu.
C'est ça, sauf que... c'est tout simplement une touche. Donc, tu n'as pas, par exemple, pour augmenter, réduire la vitesse de JAWS, ça doit se faire avec CTRL, Windows, Alt. Puis là, en plus de ça, moi, j'ai une function key que je ne sais même pas ce qui est rendu ici. Donc, CTRL, Alt, Windows, CTRL, Alt, Windows, fonction parce que mon page down est sur mes flèches. Donc là, j'ai deux mains pognées sur le clavier pour faire ma commande plus ou moins, alors que... Là, je peux le faire seulement avec une touche sur l'Enterpad.
Ah, ça fait moins de mémorisation de touches. Il y a des fonctions, des fois, qui sont quand même assez acrobatiques
exactement, à réaliser aussi. Ou pour quelqu'un qui a un problème au niveau motricité fine, ben, ou quelqu'un qui débute en informatique, ça peut être de quoi...
Très aidant, là.
Exactement.
Mm-hmm, mm-hmm.
Exactement. Si on termine avec... Là, je vais juste dire, on va pas sauvegarder ça. Si on termine avec l'ordinateur, une autre commande qui a été mappée, c'est la 10.
10. Terminé.
Vous allez être déconnecté, non disponible. Vous allez être déconnecté, barbe.
Donc voilà, pour que l'ordinateur vienne tout simplement de se fermer.
Voilà.
That's it, over. On n'a tout simplement qu'à fermer le couvert. Donc ça, c'est une tablette, là. C'est pas il n'est pas branché sur Kangaroo, mais il pourrait très bien brancher sur Kangaroo.
OK.
Enterpad, c'est un câble USB. Donc ça peut être branché derrière n'importe quel ordinateur. Mac, Windows, il n'y a pas de problème.
OK.
Tant qu'on a un port USB, pour le moment, donc c'est pas applicable pour les smartphones à l'heure actuelle. Par contre, une télé, la smart télé intelligente, tantôt là, que je parlais, bon, mais je me suis amusé effectivement à contrôler la télé avec l'Enterpad. Oui, ça peut se faire.
OK.
Parce qu'elle a des ports USB.
Super. Ça, quand il y a un port USB, ça va fonctionner.
Exactement. Et que ça prend en charge un clavier, évidemment. Autant que ce soit pas juste un port USB de recharge, là, ça devrait fonctionner.
D'accord, parfait. Ben, c'est super.
Sinon, chez Canadia, là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, c'est toutes les technologies d'OCR, donc les caméras pour OpenBook, donc les caméras Pearl, les machines à lire pour les personnes qui ont des difficultés à lire leur courrier. Vous pouvez nous contacter pour ça. On offre également différents modèles d'affichage Braille.
Mm-hmm.
Entre autres, les affichages Braille Focus, donc en 14, en 40 ou en 80 cellules.
Ah, puis le 14, il est tellement mignon.
Ben, c'est avec le kangourou, parce que oui, effectivement, la Focus 14 peut être pairée avec le kangourou.
Ben oui.
Donc, les deux pairés ensemble en Bluetooth. Et même pas besoin, à ce moment-là, si vous êtes à l'aise en braille, de contrôler, c'est pas donné à tout le monde. Mais on peut effectivement contrôler le kangourou juste avec la petite Focus, effectivement. Donc, même pas besoin de strainer un clavier à ce moment-là.
Deux mini-appareils qui te donnent accès à l'univers.
C'est ça. Tout ce qui va vous manquer, par contre, à ce moment-là, c'est un genre de petit speaker. Ou à la limite, si vous avez des écouteurs Bluetooth, si vous les mettez dans les oreilles, à ce moment-là, ça peut très, très bien fonctionner.
Ça va fonctionner. Eh bien, c'est génial.
C'est ça. Sinon, également, on commercialise aussi, peu à peu aussi, certains produits de Humanware, entre autres au niveau du burnoutage. Donc, si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous contacter de ce côté-là.
Ben, c'est super. Ça fait que il y a un moyen pour te contacter. Tu
peux... donc, je vais vous donner le numéro de téléphone de chez Canadialogue, le 1-888-730-0003. Le 1-888-730-0003. Vous pouvez suivre les options du menu pour me rejoindre directement à le poste 101. Sinon, vous pouvez aussi là, suivre les options pour le support technique ou pour la vente pour ce qui est des produits basse vision aussi. Sinon, on a également, on devrait à l'heure de diffusion de l'émission avoir notre nouveau site web de disponible. Donc, vous pouvez vous rendre sur le www.canadialogue.com. Canadialogue s'écrivant C-A-N comme novembre, A-D comme delta, I-A-L-O-G.com.
OK. D'accord, parfait. Ça, le site devrait être disponible et forcément accessible.
Il devrait être disponible, du moins à l'heure de la diffusion de l'émission, s'il n'est pas, c'est parce qu'il y a un problème.
D'accord, mais il y a toujours le téléphone.
Toujours le téléphone, puis à ce moment-là, on pourra garder contact de cette façon-là.
Ben parfait, c'est génial. Je te remercie vraiment beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté de participer à l'émission. Je pense qu'encore une fois, on démontre que y a de la technologie, il y a des aides pour nous rendre la vie plus facile. C'est sûr que pour certaines personnes, des fois, ça peut être un petit peu plus ardu, mais quand même avec de la persévérance puis un petit peu d'intérêt, on peut avoir accès à beaucoup plus de choses maintenant qu'il y a 40 ans ou que même il y a 20 ans.
Ah, ben il n'y a même pas comparaison avec 40 ans. C'est sûr qu'il y a toujours certains éléments qui sont quand même qui peuvent des fois rendre le quotidien un petit peu plus complexe. Mais c'est sûr que généralement, il y a toujours façon de s'en sortir. C'est sûr que je n'ai pas choisi comme carrière d'être graphiste. Puis je pense que je ne choisirai jamais cette carrière-là. Mais mis à part ça, au quotidien, effectivement, il y a toujours. Il y a souvent une aide qui va permettre de se débrouiller facilement.
Bien, encore une fois, merci, Alexandre.
Ça fait un plaisir.
Merci aux gens à la maison. Et n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre si vous avez des questions. Et si vous avez des questions concernant notre émission, bien, vous savez aussi comment communiquer avec nous. Merci et à la prochaine.